Non, je veux pas aller à l'école.
Je veux pas aller à l'école. Allez, debout.
J'ai envie de rentrer à la maison et de pas travailler. On peut rentrer à la maison et pas travailler, papa.
Aujourd'hui? Non. Dans ce monde-ci, maintenant, ça me paraît difficile. Je vois pas très bien comment est-ce qu'on ferait.
Pourquoi?
Pourquoi, Moé? Est-ce qu'on pourrait ne pas travailler? Ne pas travailler. Ta question m'emmène, Moé. Mais répondre à cette question, c'est forcément tenir compte des autres. Parce que l'école... Oui, c'est ça, il faut qu'on soit plusieurs à y réfléchir. Que je me tourne, par exemple, vers ceux qui nous entourent. Et dans ce cas, la première personne à aller voir, c'est celle qui, aujourd'hui, te fait travailler, ton institutrice. Voilà. Noé me pose souvent, ces temps-ci, la question, le matin, pourquoi dois-je aller à l'école ? Et j'avoue que les réponses que je lui donne ne me satisfont pas. Et donc, j'avais envie de vous renvoyer la question. Pourquoi doit-elle venir ici?
Alors, c'est vrai qu'on dit tous la même chose. C'est pour être responsable, pour être débrouillard dans la vie. Et puis aussi, pour ne pas rester à la maison. On ne va pas rester à la maison sans rien faire. Il faut se cultiver, apprendre un tas de choses sur tout ce qui nous entoure. Ça, c'est déjà essentiel. Mais moi, maintenant, j'ai une autre vision des choses. Moi, je vois bien que ma fille... elle n'aime pas l'école, voilà. Donc, la grande n'aime pas l'école, elle recommence sa troisième secondaire, et ça va toujours pas mieux, parce qu'elle n'aime pas étudier, mais elle est intelligente, elle a des capacités, mais c'est vraiment de dire étudier pour étudier, je vois pas l'intérêt, surtout que c'est étudier des formules, étudier ci, étudier ça, pour après quoi faire un métier, mais ça va nous servir à quoi, ce qu'elle me dit toujours. Je pense que on doit se rendre à l'école, d'abord pas pour faire plaisir aux parents. Évidemment, ça fait pas toujours plaisir à l'enfant, mais on doit y aller pour son futur. C'est vrai que l'enfant ne se pose pas cette question-là, puisque lui, il se dit, je suis jeune, pourquoi je vais penser maintenant au futur, puisque je n'ai que 12 ans, j'aurai bien le temps. Et je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, que quand ils rentrent à la maison, ils travaillent entre 2 heures et 3 heures par jour. Je le sais très bien. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ils m'ont dit, ouais, on a eu difficile, hein. J'ai dit, alors oui, je sais, c'était très difficile. Je lui ai dit, bon, on va corriger ensemble, maintenant. Donc, courage, ça va aller, vous inquiétez pas, enfin, je les ai un peu rassurés. Et moi, je me suis dit, oui, je leur ai donné trop de travail, quoi. Je me suis dit, c'est ça l'école, quoi. Et moi, je me suis regardée, mais oui, je dis, oui, c'est ça le travail. Et au fur et à mesure que les jours passent, on est assommé de travail. Voilà. Le rythme est dingue, quoi. Et c'est vrai que c'est pelant, j'avoue. Même pour moi, c'est pelant, je l'avoue.
Ça vous fait rire.
Alphabet, ticket, ticket, A, ticket, ticket, B, B, ticket, A, ticket, B, tu commences à m'énerver. Mon père est policier, circuler, dégager, carte d'identité et avancer. Ma mère est boulangère, miam miam. Ma sœur est une bayou.
On est tous pris, Moé. Pris dans une histoire. Ton institutrice comme moi, comme tous les autres.
Mon frère est un cow-boy.
Et nous, les adultes, nous oublions que cette histoire nous appartient.
Et moi, je suis Guillaume, le méchant homme qui a tué 3 millions d'hommes.
Alors tu vois, répondre à ta question, ça ne va pas être facile.
Moi, j'essaie de les motiver en trouvant quelque part une certaine accroche avec eux, en travaillant le côté dialogue avec eux, c'est-à-dire en essayant de trouver ce qui ne va pas. Parce que je pense que quand il y a un manque de motivation de quelqu'un qui joue au foot ou de quelqu'un qui a fourni du travail pendant X temps, c'est qu'il y a un problème dans le fonctionnement. Et dans le problème de fonctionnement, peut-être qu'il y a la saturation, il y a peut-être marre de jouer avec les pieds, on a envie d'une fois jouer avec les mains. C'est une question, je veux dire, je travaillerai avec eux beaucoup le dialogue et je tournerai beaucoup autour de la question pour savoir vraiment la problématique réelle de l'enfant. Parce que je dis pas que nécessairement il faut être vivant et aller travailler, mais je pense qu'il faut être vivant. Il y a une question existentielle là-dedans. Pourquoi on se lève? Et pourquoi j'ai besoin de me lever? Se lever sans se dire pourquoi je me lève, là je me demanderais même pourquoi, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Voilà. Voilà, mais travailler, ça fait partie du réflexe de l'être humain. Et déjà tout petit, on t'apprend que voilà, si tu ne fournis pas ton devoir, tu risques d'avoir des mauvais points. Trop de mauvais points, ça te fait pas quelque chose de bien. Voilà, je veux dire, la société d'aujourd'hui, elle t'entraîne pour que tu travailles. Et si tu ne travailles pas, quelque part, tu seras limité dans tout. Déjà, tu travailles, t'es limité. Alors, tu travailles pas, tu seras encore plus limité. Je veux dire, pour moi, quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui travaille, il peut réaliser certains rêves s'il arrive à nouer les deux bouts à la fin du mois. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, il rêve de quoi?
Et justement, ça c'est le monde dans lequel on vit. Et tu as dit, il faut aussi qu'on souffle. Et donc, nous, les adultes, qu'est-ce qu'on fait? On dit à nos enfants...
Charbonner. Oui, c'est comme je te dis, je te rejoins très très fort, excuse-moi de t'interrompre, c'est très important ce que je veux dire. C'est... Le truc, il est simple. On est en totale contradiction. Nous, une fois qu'on arrive à un âge adulte où on est professionnel depuis X années, on se dit aujourd'hui on a le droit de souffler, mais les enfants, on leur fait un peu bourricot. Ah, les devoirs c'est important, ah si c'est important, on les charge. Eux, ils ne se rebellent pas, ils subissent. Et c'est ce que je pense que la société d'aujourd'hui fait avec nous. Nous, on réclame qu'on a besoin de souffler, mais on a toujours le côté, ah, fais attention... Il y a du monde derrière toi, il y a 40 000 personnes au chômage. Eric ou Abdenor, si c'est pas vous, ce sera Kader et Frédéric.
C'est vrai qu'on vous charge. On vous charge et on se charge.
Auquel on est amené à participer d'un côté ou de l'autre.
Vous allez bien? C'est pas grave, de la 6 B6 et de la vitamine B6 avec le différent gradiné, c'est très bien. De le midi et de le soir, après manger.
Moi je suis toute fière quand je rentre chez moi, fatiguée. Je suis mère de famille, mais au moins j'ai fait quelque chose de beau dans ma journée, c'est-à-dire que j'ai pu aider, j'ai pu transmettre un petit peu mes connaissances, j'ai pu conseiller les personnes âgées qui viennent chez moi et qui sont super contents parce que j'étais là pour eux, à les écouter, à les aider, et ça reste toujours agréable quand on rencontre des gens qui sont reconnaissants. Moi, même si parmi 4 cas, moi, j'ai que 2 cas qui sont reconnaissants, j'ai pu faire quelque chose de beau pour eux. Pour moi, c'est super. Et j'ai quand même mérité ce que je gagne. Je peux dire ça et je suis fière. Et c'est ce que j'essaye de transmettre, en tout cas, à mes enfants.
Donc, ça veut dire que cette notion de l'effort que l'on fournit pour atteindre un objectif, elle est très importante pour vous.
Tout à fait. Un effort, c'est très, très important. S'il n'y a pas d'effort dans la vie, rien n'est mérité pour moi. C'est ça que j'essaie de transmettre actuellement à mes enfants, se lever tôt, les préparer pour l'école. Pourquoi maman à l'école? Pour avoir un diplôme. Regarde maman, elle travaille. Regarde papa, il travaille. Et c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Parfois, on me dit, maman, on n'a pas envie de l'école, aller à l'école. J'ai dit, écoutez, c'est parce que maman travaille et papa travaille, on a fait l'école, et c'est comme ça qu'on peut aller au CUIC. Voilà. J'ai dit, voilà, et si on n'a pas d'argent, on ne peut pas aller au CUIC. Et si on ne peut pas aller au CUIC, donc voilà, est-ce que vous seriez content? Ah oui, d'accord, maman. Eh bien, j'ai dit, voilà, ce qu'elle a fait maman, elle a fait papa, vous devriez faire vous aussi. On pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Par exemple, moi, je pose tout le temps la question à mes enfants, qu'est-ce que tu veux devenir dans l'avenir? Moi, quand j'étais toute jeune, on m'a posé la question et j'ai choisi mon métier. Donc, pour moi, le travail, d'abord, c'est un choix personnel qu'on aimerait bien pratiquer dans l'avenir, mais en même temps pour vivre, c'est-à-dire gagner notre vie. Mais en étant jeune, ça, c'était pas la première question ou bien le premier souci. Moi, c'était juste, je veux pratiquer ce métier, je veux travailler dans ma vie. Donc, être indépendant de mes parents, même dans mon couple, par exemple, indépendant de mon mari, avoir ma propre indépendance financière, ça, c'était super important. Moi, je vous dis, j'étais choquée quand j'ai eu la fille d'un ami qui est venue me voir. Elle m'a dit, est-ce qu'on gagne bien notre vie en pratiquant ce métier? Donc, ça reste plus un choix, c'est-à-dire un rêve où on veut réaliser par après. J'étais choquée. Mais en analysant la question de cette jeune, j'ai compris qu'elle a tout à fait raison, quelque part. Hein. Il y a une angoisse terrible actuellement.
Se lever tôt pour gagner sa vie. Tout est là, Moé. Sauf que, comme dit Fatima, la pharmacienne de la place, le travail, ce n'est pas que ça. D'ailleurs, l'école, ce n'est pas qu'une histoire de notes ou de points. Parfois, le travail, c'est aussi... C'est là que ça se complique. Parce que oui, c'est aussi une histoire de choix quand on a la chance de l'avoir. J'ai choisi ce métier de faiseur de son. Et à travers lui, je cherche plus que simplement à gagner ma vie. Je cherche à... Je cherche... On cherche tous quelque chose. Même ton grand-père, qui a travaillé toute sa vie dans la même entreprise, lui aussi devait chercher quelque chose. Et figure-toi que c'est la première fois que je lui pose ta question. Pourquoi travaille-t-on?
Il est possible que je ne me sois pas posé la question à l'époque, tellement je trouvais ça évident. Et après coup, j'ai trouvé le travail plutôt un plaisir qu'autre chose. Donc, une des raisons de mon travail, c'était le plaisir que j'en obtenais. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que le travail a eu la même valeur depuis le début jusqu'à la fin. Bien sûr que non. Mais globalement, je trouvais ça quelque chose de très valorisant. Oui. Avant tout, pour les relations qu'on peut avoir à travers le travail, avec ses collègues, avec ses patrons, avec ses ouvriers, avec toutes les personnes avec qui on est amené à être ensemble dans ce travail. Le travail procure un plaisir dans la mesure où, quand il y a un objectif, parce qu'on a tout le temps des objectifs dans son travail, si on réussit et si on aboutit à un résultat qui est bon, entre parenthèses, qu'est-ce qui est bon, ça on peut en discuter par après, qui est bon, eh bien, on a une satisfaction personnelle. Mais la plus grande satisfaction, c'est celle qu'on donne aux autres, dans la mesure où les autres peuvent, à travers ce même travail, s'épanouir de leur côté. Ça, c'est le plus grand plaisir du travail.
Le plaisir de participer avec d'autres à quelque chose, alors.
Et de faire participer d'autres à quelque chose. C'est pas toujours facile d'enthousiasmer quelqu'un au travail qu'on fait. Et donc, si malgré tout, tu parviens à provoquer un certain enthousiasme pour le travail, ce qui d'ailleurs, non seulement est agréable, mais en plus favorise très souvent le résultat, ben alors tu as une double satisfaction.
Mais donc, tu ne travailles pas pour le salaire?
Je ne travaille pas pour le salaire, non. Je n'ai jamais travaillé pour le salaire, même si je pense que tout travail mérite salaire et qu'il y ait des niveaux de salaire ne me paraît pas du tout anormal. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit gagner jusqu'à 100 fois le salaire de la moyenne des employés. Ça, c'est un autre problème.
Moi, cette phrase « tout travail mérite salaire » que je comprends bien et je comprends d'où elle vient, je comprends pourquoi on la prononce et quelque part... Il y a un lien entre un effort fourni et un retour. Et finalement, ça se monétarise sous la forme d'un salaire. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette phrase aujourd'hui, elle fait d'énormes dégâts. C'est quoi cette idée de mérite, en fait? C'est quoi ce lien entre travail, mérite et salaire?
Oui, c'est une vaste question. Je crois que le mérite partie de la motivation. Même si j'ai dit et je répète que je ne travaillais pas pour mon salaire, je pense quand même que qu'on mérite un salaire plus élevé dans la mesure de ce qu'on peut donner comme prestation.
C'est quoi le travail non salarié? Parce que ça, tu seras quand même d'accord avec moi que ça existe. C'est quoi pour toi le travail non salarié?
Mais justement, je cherche un exemple en Belgique, parce que peut-être qu'il en existe énormément dans d'autres pays, mais il me semble qu'en Belgique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille sans la moindre rémunération? À part celui qui ne veut pas, hein. Mais sinon, je ne pense pas.
On dit tout travail mérite salaire, je suis tout à fait d'accord, mais il y a des travaux où on n'a pas de salaire. Est-ce que le travail est reconnu uniquement quand il est payé? Ça, je ne sais pas. Quand j'étais à la maison et que je devais dire « oui, moi je n'ai pas de travail », ça me faisait drôlement râler parce que je trouvais que je travaillais beaucoup, mais ce n'était pas payé. Tandis que quand on travaille à l'extérieur pour un employeur, on est payé et alors du coup on acquiert un autre statut. Et les gens sont plus sensibles à cet aspect-là quand on reçoit un salaire. Alors oui, comme on dit, tout travail mérite salaire, je suis d'accord, mais tout travail n'a pas en fait un salaire, je trouve. Alors j'ai du travail non rémunéré pendant très longtemps, et puis à 50 ans plus ou moins, j'ai eu un travail rémunéré. Et c'est vrai que je pense que si ça avait été la mentalité au moment-là, j'aurais sans doute travaillé pour simplement le plaisir de travailler. Ça, je suis d'accord. D'un autre côté, je dirais que j'étais très fière de mon salaire parce que c'était la première fois que j'avais un salaire et que je n'étais plus une femme entretenue. Donc, le fait de gagner de l'argent, je l'appréciais. Je ne gagnais pas grand-chose, ça, c'est pas ça l'important, mais j'avais ma quote-part. J'en avais une certaine fierté.
Mais si tu avais eu un salaire...
À la maison.
Oui. Est-ce que tu aurais considéré ton travail autrement?
Peut-être que les autres auraient considéré ça autrement. Parce que je trouve qu'il y a quand même un préjugé qui a la vie dure. C'est que plus on est payé, plus les gens sont considérés. C'est souvent comme ça. Alors que je trouve qu'il n'y a aucun rapport entre la rémunération et la valeur des gens.
Et pourtant, tu trouves que la phrase « tout travail mérite salaire » est juste?
C'est un adage, c'est pas nécessairement une vérité. Je sais pas d'ailleurs ce que c'est qu'un travail. On dit qu'une femme qui accouche travaille, elle est en travail. La notion est très vaste du travail. Le travail, ça peut être juste une maturation. Par exemple, ton travail de création, de réflexion, par exemple les philosophes. Je trouve que les philosophes sont des gens indispensables dans la société parce qu'ils vont réfléchir à des choses. Mais est-ce que c'est un travail? C'est un travail, mais pas dans le sens où on le prend dans le sens métier. Je trouve qu'il y a le travail artistique, il y a simplement des pensées qui peuvent embellir la vie des gens. Parfois, un bulbe de tulipe qui va s'épanouir, c'est aussi un travail. La fleur est en travail. Mais on ne voit le résultat que bien plus tard. Je trouve que tu ne sais pas assimiler ça à un salaire. Enfin, je ne sais pas. Ça ne recoupe pas du tout ce que tu dis. Tu comprends? C'est beaucoup plus vaste.
Donc le salaire est le cœur de la question. C'est à la fois le nœud et la clé. Bon, si tu dessines sur le sable et que personne ne voit ton dessin avant que la mer ne monte, tu n'as pas travaillé. C'est ça. Par contre, si ce que tu fais sert à quelqu'un d'autre, tu travailles. Et c'est tout ça qui se cache derrière le travail, dans le salaire.
Parlons donc du travail.
Le problème aujourd'hui du salaire, c'est qu'il est lié à l'emploi.
C'est penser à la vertu de l'espoir, émanciper de la direction et d'ouvrir des portes.
Il est temps de dissocier vraiment l'emploi du travail, de ne pas superposer le fait que le travail et l'emploi soient la même chose.
C'est décisif. C'est-à-dire le salaire à vie.
C'est tellement loin.
En dehors de la dictature du temps de travail.
C'est tellement utopique.
Comment repenser notre rapport au travail, de
le marché
quoi,
du travail,
de qui,
il doit
finalement,
disparaître.
Notre travail devrait peut-être aujourd'hui s'émanciper.
Est-ce que c'est une douce utopie? Peut-être.
Oui, je pense qu'il faut bien différencier le travail et l'emploi. Pour déconnecter le salaire de l'emploi.
Déconnecter le salaire de l'emploi. Ils disent qu'on devrait libérer le travail. L'émanciper. Libérer le travail. Ça sent l'utopie. Ou alors... Mais justement, c'est par là qu'il faut aller.
Oui.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Nancy.
Oui, je vous ouvre.
Ok, merci.
Selon moi, si je ne devais pas travailler, je pense que je dépérirais un peu comme une fleur. Parce que moi, j'ai besoin d'une motivation d'équipe. Et donc, si je ne travaillais pas, je pense que je devrais profondément me remettre en question pour pouvoir essayer de trouver tout ce que je trouve, parfois oui et parfois non, dans le travail. J'aurais un peu de mal, parfois, je crois.
On dit gagner sa vie. Ce serait quoi perdre sa vie?
Perdre tout lien avec le monde actuel, avec tout le monde. Perdre le lien. Capoute, rompu. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais moi, je pense que si je perds le lien, que si je perds ma petite contribution, mon petit lien que je mets avec les autres et pour les autres, je perds ma vie. Je perds tout. Je suis plus là, j'existe plus.
Oui, donc quand on dit gagner sa vie, en fait, c'est pas une histoire de salaire.
Non, c'est une histoire de donner, recevoir, c'est une histoire de participation, c'est une histoire d'épanouissement, c'est une histoire d'être bien dans son monde.
La question, elle en cache une autre qui est les nouvelles idées qui circulent pour l'instant que sont le revenu de base et le salaire socialisé. Ce sont des idées qui consisteraient à déconnecter le salaire de l'emploi. Ce sont des idées qui émergent, le revenu de base existe depuis 30 ans en tant qu'idée, il est tombé en désuétude, il revient à la mode maintenant, il y a une autre idée qui est en train d'émerger maintenant qui est le salaire socialisé. Ces deux idées ont beaucoup de différences, mais elles ont un point commun qui est qu'on donnerait quelque chose aux gens, un revenu dans un cas, un salaire dans l'autre qui fait une énorme différence, on peut en discuter, mais peu importe, avant que les gens ne travaillent. Donc l'idée, ce serait de salarier les gens a priori et pas a posteriori. C'est quoi le salaire? Ou si tu l'avais garanti à vie, quel serait ton travail? Et est-ce que tu continuerais à travailler ou comment tu ferais, etc.
Moi, je suis assez séduite par cette notion de pouvoir avoir une rémunération chacun. Parce que je pense que ça motiverait énormément les groupes. Ça pourrait construire des projets communs beaucoup plus facilement que maintenant. C'est difficile maintenant d'attirer des gens dans un projet. La participation est difficile. La solidarité est extrêmement difficile aussi. Or, je pense que dans ce cadre-là, on pourrait facilement influencer des groupes, influencer dans le sens positif, c'est-à-dire à construire ensemble. Mais ça permettrait un influx, je pense, plus dynamique, plus immédiat des gens vers un projet commun et moins d'individualisme. Maintenant, on travaille tous chacun pour soi ou quasi. Très peu sont les gens qui se rassemblent et qui construisent des projets ensemble. C'est très difficile de les avoir de un et c'est très difficile de les tenir sur la longueur. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de transmission. Je pense qu'il y a beaucoup de ce qu'on donne à nos enfants. Comment va être le monde de demain? On parlait hier avec Alice de la journée du 1er mai, qui est la journée de congé des travailleurs. Tout ça, c'est important. On a congé, mais on a congé pourquoi et qui et comment et pourquoi ils descendent dans la rue encore maintenant. Moi, c'est ça que j'aimerais bien pour le monde de demain, c'est que nos enfants participent autrement que nous. Je pense que nous, on a pu participer, dans notre génération, en tout cas, on a pu participer. Nos parents, je ne pense pas. Enfin, moins de mon côté. Mais j'espère qu'Alice sera une participative dans la société de demain. Sacrement beaucoup plus que nous on l'a été, encore plus je pense. Ouais. C'est ça l'enjeu de demain.
Qu'est-ce que tu dis à Alice par rapport à la question du travail, des devoirs?
Alors là, je pense être complètement en contradiction, mais ça c'est mes petits problèmes internes. Je pense que, ben non, Alice, il faut qu'elle bosse. Voilà. Donc oui, non, ça c'est pas très cohérent, j'en suis consciente. Mais je travaille à le faire mieux.
Dis à propos, Moé, Alice, elle pose la même question que toi à Nancy. J'aimerais bien savoir.
Pourquoi les adultes, c'est complètement bête?
Pourquoi les enfants, ça pose toujours plein de questions?
Pourquoi les adultes, ça répond pas à des questions?
Pourquoi les enfants, ça n'aime pas les réponses qui sont des questions?
Parce que je n'ai pas une réponse, c'est une question. Nous, on veut une réponse.
Oui, mais si je connais pas la réponse, je fais comment?
Tu inventes une réponse.
Inventer une réponse, d'accord, mais pas tout seul. Parce que suivre ta question, c'est la poser aussi à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Par exemple, la personne qui conduit le tram que tu prends tous les jours. Si vous aviez un salaire garanti de toute façon, par un mécanisme économique ou un autre, est-ce que vous iriez travailler en dehors de chez vous?
Personnellement, je trouve ça assez utopique. Je ne pense pas que si on donnerait un salaire en un mot, franchement, je ne visualise même pas ça. Je n'imagine même pas parce que je trouve que on n'aurait pas de fil conducteur. Parce que, allez, comme un enfant lui dit, si tu fais bien X chose, t'as un bonbon. Et je pense que le salaire, c'est quand même un peu quelque part la carotte au bout du bâton.
Je vois bien ce que vous dites, et c'est effectivement ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Le salaire, c'est la carotte au bout du bâton pour la plupart des gens. Mais il y a donc maintenant des gens qui réfléchissent à l'idée qu'on pourrait sortir de ça. Alors, on est bien d'accord, c'est une utopie. Mais les utopies ont ceci d'intéressant, qu'elles posent des questions sur l'aujourd'hui. Donc je ne cherche pas à faire une publicité pour ça. Je cherche à me dire, ok, si de plus en plus de gens en parlent, s'il y a toute une série de conférences sur ces questions, c'est peut-être qu'il y a quand même quelque chose à interroger sur le travail.
Ben, c'est clair que on a besoin de se réaliser. Je crois que ça fait partie de cette vie sociale dont on a besoin. On a besoin de se sentir utile dans la société. Une fois que, je sais pas moi, en tant que maman, une fois mes enfants sont à l'école, la popote ça dure une heure, entre-temps il faut bien faire quelque chose. On ne pourrait pas rester tout le temps à se serrer les pouces. Vous avez parlé de voyages, de vacances. On ne sait pas être 24/24, 7 jours sur 7 en vacances. Donc je pense que avoir un enfant à 30 ans qui a, entre guillemets, réussi, c'est une fierté, c'est le parcours de vie, c'est l'accomplissement d'un travail qu'on a fait toute une vie. Je crois que c'est dans cet axe-là qu'un être humain a la sensation de s'être réalisé, d'avoir fait quelque chose de bien, d'avoir servi à quelque chose. Et je pense que c'est aussi ça notre... ce qui nous permet de nous lever tous les matins, de se tenir debout, c'est de dire « Ah, je compte, je sers à quelque chose, je suis la maman de mes enfants, je suis l'épouse de mon mari, je suis chauffeur de tram et les gens ont besoin que ce tram avance pour qu'ils aillent travailler. » Je crois que c'est ça qui réalise l'être humain. Mais à côté de ça, je pense que même avec le salaire garanti, il y aurait, je pense pas qu'il y aurait beaucoup qui restera à ne rien faire.
Quand on va dans ces territoires-là imaginaires, hein, ce sont des territoires imaginaires, ben, se pose la question de l'effort, le mérite, etc. Si on imagine une nouvelle organisation de la société, ben, où va se situer l'effort et le mérite alors ?
Je pense que la carotte sera plus émotionnelle. Je veux dire, vous n'avez pas de contrainte de rentabilité, mais vous êtes content de voir que le boss, entre guillemets, est fier des chiffres que la société fait à la fin du mois. Vous n'avez pas de contraintes de volume. Mais quand vous voyez le travail accompli, vous êtes vous-même fier de dire « Ah, j'ai fait tout ça quoi, sur une journée. » Je crois que ce serait plus ça. Ce serait plutôt un ressenti qu'un mérite salarial.
Oui, c'est ça. Donc le mérite se déplacerait ailleurs que sur le salaire.
Exactement, vu que y a plein de choses qu'on prend pour de l'utopie. C'est juste que le système ne nous permet pas. À l'époque, les facteurs rentraient et prenaient une tasse de café. Je pense pas que de nos jours, les facteurs y rentrent dans beaucoup de maisons. Je ne crois pas. J'ai vu un documentaire dernièrement sur les facteurs. Je me suis dit, oh là là, c'est loin. C'est trop utopiste, c'est trop loin. C'est comme si ça n'a jamais existé. On y pense au rendement. On aimerait aussi, au bout de la journée, avoir le sentiment du travail bien accompli.
Cette idée de déconnexion nous fait bouger. C'est sa force. Et si ce n'était pas une utopie ? Oui, bon, on se calme. On ne sera jamais tous d'accord. Heureusement, d'ailleurs, c'est ce qui fonde notre vitalité. Et si on veut y aller, il faudra qu'on se batte. Il y aura toujours des luttes. Il faut que j'aille en parler avec Laurent.
Tu veux un café ?
Non, merci. Par contre, un grand verre d'eau avec plaisir.
L'ennui est mon ennemi numéro un depuis ma plus tendre enfance, et donc il n'y a rien que je redoute plus que l'inactivité, les vacances, les week-ends, enfin toujours il n'y a pas de week-end pour moi. Donc travailler, en fait je ne fais que ça. Donc je suis tout le temps en train de travailler. Et c'est peut-être pas très intéressant pour Moé. Ce qui serait plus intéressant pour Moé, c'est... par rapport à l'utopie dont tu parles de l'allocation universelle, le problème, c'est que ce que je constate, et ça c'est ma triste constatation et observation dans la nature humaine depuis 54 ans, c'est que le fait de ne pas être tenu de faire quelque chose, d'être pris dans une activité, n'est pas à la portée de tous les cerveaux. C'est-à-dire, c'est bien clair, moins on fait, plus ça coûte de faire
quoi que ce soit. Les gens désœuvrés, on leur demande de faire un truc, ou ils se proposent eux-mêmes de faire un truc, ça prend 3 jours. Quelqu'un qui a 4 boulots, ça lui prend 1 seconde et c'est fait dans la minute. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Je démontre que le bagne, il ne suffit pas d'avoir un geôlier pour être dedans. On se le construit soi-même.
Et moi, je prétends que c'est une
très bonne formule. Merci, Eric. C'est exactement ça. On construit sa propre prison si on n'a pas une force mentale, psychologique suffisante. Il y a des gens, je ne vais pas nommer ici, qui sont chômeurs et qui font des choses absolument incroyables. Et je me dis, mais c'est fantastique. On appelle ça un chômage, mais c'est juste simplement l'État qui décide que cette personne-là, elle est payée autant pour faire ça. Mais l'État pourrait très bien dire, ah non, cette personne-là, elle est employée et elle fait ça. Et on peut prouver qu'elle fait même plus que 30 heures par semaine. Mais c'est une infime minorité. Quand on fait de la politique, il ne faut pas penser à une minorité. Il faut penser à la totalité. Et donc, c'est pour ça que c'est une impasse. C'est pour ça que je n'ai pas de solution, parce que je vois qu'il y a une minorité qui arrive à vivre cette déconnexion-là.
Ça va ?
Il y a tout un attirail.
Bah oui. Bonne journée. Hein. Une idée élitiste. Non, la liberté, ça s'apprend. Et puis de toute façon, on peut y aller progressivement. Et je m'obstine à penser que le progrès sera collectif ou ne sera pas. Merde le geôlier. Coucou. Je viens voir comment ça va.
Tu peux m'aider ?
Qu'est-ce que tu dois faire ?
Il y a... Là, il y a le graphique en camembert. Et puis après, là, il y a des questions, mais je ne sais pas comment on doit faire.
Mais tu vas le trouver toute seule.
Ouais, mais je comprends pas du tout. On doit faire 37% de 5000.
Exactement.
50. 50 ou 37.
Continue, Moé. Comme Alice, Naïm et tous les autres, on apprend tous à travailler.
Attends.
Moi aussi, je continue. Peut-être que Laurence, la maman de Naïm, qui travaille dans un syndicat, pourra, elle, me donner quelques pistes concrètes.
On travaille trop. On travaille beaucoup trop dans nos sociétés. Certains ne travaillent pas assez et en souffrent parce que avoir un temps partiel et ne pas être payé assez, c'est évidemment pas du tout suffisant pour pouvoir bien vivre. Mais la plupart des gens travaillent trop et se rendent malades d'une quantité de travail. Et donc trouver cet équilibre entre la vie au travail et la vie hors travail, pour moi c'est dans cette articulation-là que la question de la réalisation, mais aussi de l'émancipation, peut se concrétiser. Et donc, moi, je plaide vraiment pour une réduction collective du temps de travail, mais pas des mini-jobs sur le modèle allemand, mais vraiment une réduction collective du temps de travail qui permettrait de garder des salaires dignes et qui nous permette de vivre à la fois cette vie dans le travail et hors du travail. Parce que là où je travaille, on travaille vraiment sur l'existant. On n'est pas en train d'annoncer le grand soir, de se dire qu'on va sortir du capitalisme, mais plutôt de se dire, tiens, de là où on est aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans ce système qu'on va tous les deux pouvoir décrire comme mortifère, quels sont les interstices, justement, pour de la créativité, pour de la transformation ? Comment est-ce qu'on, à l'intérieur du système, on est capable de trouver, à le réguler, à le transformer ? Et donc, si tu veux, avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de transmettre, tu parlais de qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à ses enfants, ben moi, ce que j'ai envie de transmettre à Naïm, c'est cette foi dans le pouvoir qu'on peut avoir pour transformer, que ce soit des petites choses, mais aussi des grandes choses.
Oui, mais tu parles de cohérence, et j'ai du mal, moi, à croire qu'on puisse diminuer le temps de travail dans un système qui est construit sur la question de la productivité et de la vitesse, et donc où tout est toujours quantifié sur la division par le temps. Si on mesure ce que tu reçois comme argent par rapport au temps que tu as mis, ben, il n'y a pas moyen de partager le travail. Ça me semble une illusion, un fantasme de vouloir partager le temps de travail à l'intérieur du capitalisme, puisque le capitalisme fonctionne sur cette question de la vitesse.
De là où je suis, je ne vois pas comment sortir du système aujourd'hui. Parce que jusqu'ici, on n'a pas trouvé d'autre modèle que celui de la productivité. Comment est-ce qu'on ferait, notamment pour financer quelque chose comme une allocation universelle ou un salaire socialisé en dehors de cette sphère de productivité? Jusqu'à présent, ce qui permet d'avoir des services publics, des écoles, des autoroutes, etc., c'est quand même toujours lié au fait qu'on est dans un environnement productif, qui a des gains. Mais donc voilà, enfin, on finance une série de services qui sont offerts aux individus, des services collectifs, par cette productivité.
Donc 5 000 divisé par 100, c'est 50 fois 3. C'est quoi 50 fois 3?
Enfin, c'est fois 10, mais je l'ai décomposé pour avoir...
Donc c'est 50 fois 30. 50 fois 30, ça fait 1500. Ah, mais tu peux pas faire 1500 fois 7, hein?
Pourquoi je peux pas le faire?
Ah, non, hein, c'est 50 que tu dois faire fois 7, et puis tu additionnes. Parce que là, tu as fait 50 fois 30.
Ben oui.
Et puis tu dois faire 50 fois 7. Mais pas 50 fois 30 fois 7.
Oh là, je ne comprends rien. Mais 50 fois 30, c'est bon, 1500.
Oui, oui.
Une demi-heure.
Ok, je repasse tout à l'heure alors.
Se tromper, recommencer plusieurs fois avant d'aboutir à un résultat. C'est ça le travail. Moi, ça fait des semaines que je passe mon temps dans cette cave pour assembler tous ces sons. Tu vois bien que j'avance lentement. Parfois même, je perds le fil. Mais j'avance et ça prend forme. Cela dit, je ne sais toujours pas où est l'utopie.
Il y a suffisamment de diversité pour que les gens prennent leur pied dans la construction d'un modèle qui sera probablement beaucoup plus lent, mais peu importe, c'est même plutôt bien. Mais rendre le système beaucoup plus lent et rendre le système où on ne crée que des choses qui ont du sens, hein, ça c'est génial. Maintenant, ce qui me semble le plus important, c'est se dire qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne voudront plus faire et qui sont pourtant nécessaires. Par exemple, ramasser les poubelles. Hein? Et donc, on peut très bien se dire que ce système-là nécessite une collectivisation, donc un engagement à faire les tâches résiduaires. Toutes les fonctions sont nobles parce qu'elles sont nécessaires. Et effectivement, on sait construire une fierté de faire une série de choses. Mais cette fierté, c'est le fruit d'une négociation. Et cette négociation est, pour l'instant en tout cas, encore basée entre autres sur le salariat. Donc par exemple, les éboueurs, si on en trouve encore aujourd'hui, c'est dû quand même à ce qu'il y a finalement assez peu d'emplois peu qualifiés, et donc celui-là, il existe. Et d'autre part, c'est le fait que le salaire n'est pas mauvais et les conditions de travail sont dures, robustes, mais assez intéressantes. Donc c'est le fruit d'une négociation, c'est le fruit d'une relation sociale tendue. On peut peut-être l'internaliser, peut-être qu'il y a moyen de trouver. Mais je trouve que ça vaudrait la peine qu'on s'y arrête et pas balayer en disant « il y a des gens qui s'épanouissent là-dedans ». Quoi. C'est vraiment ça la crainte que j'ai. Et donc, c'est bizarre, mais je vais dire un gros mot, hein, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que construire des valeurs collectives, que de construire des utopies collectives. Donc je pense qu'au-delà de la question système, la question de la construction des valeurs communes est tout aussi importante. Et ça, c'est la culture, c'est tout le champ culturel. C'est pas le champ moral, c'est pas le champ religieux. C'est tout le champ culturel. Que la culture dominante la culture majoritaire soit une culture du sens, de la co-construction, de l'arrangement, d'une certaine lenteur, etc. Mais si on est dans « on supprime le salariat pour que chacun ait un salaire et que chacun puisse faire ce qu'il veut », donc si on pousse l'individualisme encore plus à travers cette logique-là, je peux te garantir qu'on va avoir 100 qui vont fonctionner là-dedans pour 100 000 qui vont être en dessous et qui vont faire fonctionner les turbines, quoi.
Toute cette complexité, là, je suis un peu perdu, Moé, et on est loin de ta question. J'ai même oublié de la poser à ton parrain. Déconnecter le salaire de l'emploi, c'est une réponse d'adulte. Ça, je suis d'accord. Pourtant, je pense que c'est une vraie réponse à ta question du matin. Parce que c'est donner au travail tout son sens. Peut-être que c'est une histoire de temps ou de point de vue, je ne sais pas.
Ici, c'est la forêt de Soignes, c'est la nature. Et voilà, je suis en train de gagner ma vie. C'est cette génération après moi, les gardes forestiers qui vont me suivre, qui vont récolter ce que moi j'ai planté. Et moi, je suis en train de récolter ce qu'un garde forestier a planté il y a 200 ans ou 150 ans. Et alors, il y a quelques générations de gardes entre celui qui a planté et moi. Et eux, sans doute, ils ont soigné ces jeunes plantes. Ils ont enlevé les ronces qui tirent la plante vers le sol. Ils ont peut-être donné une taille de correction à un arbre dont ils disaient « Oh, il a une fourche, on va enlever une partie de la fourche, on va le rectifier et on va créer du beau bois. » Moi, j'ai peut-être une carrière de 30 ans, mais dans la vie d'un arbre, ça c'est rien, c'est rien du tout. Et il ne faut pas réfléchir comme un homme. Il faut parfois donner 10 ans et voir sur ce temps-là, est-ce que ça réagit ou pas. Et il faut réfléchir sur un temps plus long terme et sur une surface plus grande. Au lieu d'être fixé sur une petite parcelle et de dire « je veux avoir cette plante maintenant là, cet arbre il me manque là ». Tu peux dire « tiens, ici à 2 km il y a une petite parcelle avec cet arbre ». Je vais attendre avec la régénération naturelle. Il va arriver ici. Donne ça un peu de temps. Il va arriver lui-même. Il faut accepter ce qui se passe ici. Ça, c'est tout. Tu plantes, pourquoi ? Parce que c'est une essence qui, par l'influence de l'homme, a disparu. Hein ? Moi, je ne vais pas planter des êtres. C'est plein d'êtres ici. On les a plantés. Et beaucoup. On les a favorisés. Alors, peut-être que je suis en train de revenir un petit peu sur ses actions d'autrefois et de dire, tu sais, cette monoculture d'uniquement d'une essence dominante, très concurrentielle comme le hêtre, on ne doit pas casser, parce que ça, c'est un terme si négatif, mais on doit quand même introduire des essences qui ont aussi le droit d'être ici, qui n'ont peut-être pas ce but économique, mais qui font aussi partie normalement de cette forêt. Je crois que c'est un écosystème qu'on ne comprend pas encore tout à fait. On est en train d'étudier ça, mais qu'est-ce qu'on en sait? C'est hyper compliqué, et la nature le sent, mais nous, on n'est pas assez sensibles pour voir tout ça. Tu veux expliquer quelque chose à ta fille, tu peux expliquer, tiens, ça vaut la peine d'aller à l'école pour apprendre tout ça, pour comprendre tout ça, pour retrouver toute cette info et d'introduire ça dans ta vie.
Mais tu vois, oui, depuis que je pense à ce documentaire, ce moment-ci a toujours représenté une espèce de clé de voûte. Depuis le début, je m'imagine enregistrer ça. Le silence de cette forêt-ci. Juste à côté de la ville. Avec les avions. Et ça aussi, c'est mon travail. À toi demain. Une réalisation de Eric Smesters. Montage Hervé Brindel et Luc Plantier. Stagiaire Marianne Amaré. Mixage Laszlo Umbreit. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Guillaume Istas, Michael Grébil, Fabrice Ozinski, Stéphanie Danens, Pierre de Jager, Michel Villet, Carmelo Virone et Johan Allé. Merci à vous pour votre parole et votre confiance, et un grand merci à toi, Moé.